Chers amis, frères et sœurs, j'aimerais prier le Seigneur, après ces chants, on se présente à Dieu, introduire ces quelques instants de prière avec les premières paroles du psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, espère en Dieu. Je le louerai encore, car il est mon salut. Amen. Levons-nous, mes amis, pour prier le Seigneur, afin qu'il nous touche au plus profond de nous, parce que sa parole va jusqu'à la moelle des os, dit la Bible. Ça va loin, hein? Sa parole descend dans les profondeurs des pensées, des sentiments. Ce n'est pas une parole qui effleure la vie, qui pénètre la vie. Nous nous plaçons devant toi à ton écoute, dans le silence de la parole de notre cœur, pour entendre la voix magnifique de Dieu qui se faisait entendre sur les collines de Galilée et qui touchait les corps, les âmes, les maisons malades. Nous voulons entendre cette parole qui nous fait passer, qui nous fait aller vers Dieu, vers la maison de Dieu. Touche les malades au milieu de nous, touche tous les chercheurs de vie au milieu de nous, touche-nous dans tous les accablements de l'existence, car ils sont là aussi pour nous jeter dans tes bras. Nous voici, Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir et à vivre, parce que l'Évangile, ça s'écoute, oui, mais ça se vit. Pendant qu'on entend, Dieu fait quelque chose. Ou plutôt, pendant qu'il parle, il agit. J'ai donc choisi pour ce dimanche, avant les conférences de carême de la semaine prochaine, sur l'Évangile, lumière, pour notre temps. J'ai choisi dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, l'Exode c'est Moïse, ce sont les enfants d'Israël en captivité, dans le piège plutôt, de l'Égypte, et qui se sont retrouvés dans un véritable camp de concentration. Mais Dieu a eu compassion de ces enfants d'Israël qui criaient, et il a envoyé un libérateur, Moïse. Je lis donc avec vous dans l'Exode, chapitre 15, verset 22. C'est l'histoire, le premier jour, on pourrait dire, après le passage de la mer Rouge. Et quelque chose nous est donné pour notre compréhension de la vie et de Dieu. Exode 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent le chemin du désert de Chour. Et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, c'est-à-dire des commandements, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Cette histoire fait suite au passage de la mer Rouge. Vous avez tous entendu parler de cette histoire magnifique. Et vrai, Dieu a fait sortir son peuple de l'enfer, du camp de concentration du nord de l'Égypte, à travers la mer Rouge, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Ils étaient entre l'armée d'Égypte et la mer. Dieu a pu manipuler les eaux et faire passer son peuple. Car Dieu est le sauveur des grands dangers, comme l'Égypte, où l'on tuait les petits garçons, où l'on usait les hommes par le travail, où l'on empêchait les gens de penser, où l'on opprimait la conscience des enfants juifs. Dieu est le sauveur des grands dangers, mais il est aussi le sauveur des petits dangers de chaque jour. Y a-t-il des petits dangers? Je ne crois pas. Il nous sauve chaque jour. Il fait quelque chose pour nous, pas seulement une fois, mais chaque jour. Dieu ne nous aime pas une fois seulement, mais chaque jour de l'éternité et de notre vie. La mer Rouge a été une déclaration d'amour pour ces centaines de milliers de gens qui venaient d'un véritable enfer. Les eaux s'ouvrent, pas seulement les eaux, le ciel s'ouvre pour eux, le cœur de Dieu s'ouvre aussi pour eux. Dieu les aime. Mais vous me direz, est-ce que Dieu a un amour exclusif pour Israël? Est-ce que Dieu n'a pas un peu d'amour aussi pour nous? Israël est le miroir de Dieu. Nous voyons Dieu à travers son histoire. Mais l'histoire d'Israël, c'est pour nous dire ce que Dieu a fait avec eux. Il veut et il peut le faire aussi avec vous. Ce que les apôtres ont vécu avec Jésus, nous pouvons également le vivre. Parce que Dieu, Jésus, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi Dieu porte ses enfants dans les situations les plus difficiles devant lesquelles on n'a pas de solution. Devant la mer Rouge, devant les marécages, devant les déserts. L'Écriture dit, les enfants d'Israël ont pris la direction du désert. Ce n'est pas un chemin facile. Mais Dieu est avec eux visiblement, puisqu'il y a au-dessus du camp d'Israël qui bouge, il y a comme un nuage comme un brasier, la Shekinah, on l'appelle ainsi, c'est-à-dire la présence de Dieu dans ce nuage, dans cette colonne de feu la nuit. Il est donc visiblement au milieu d'eux. Alors, va-t-il les laisser périr? Va-t-il les laisser aller dans un désert sans fin où ils vont mourir sur la surface du sol? Dieu les a pas fait sortir d'Égypte pour les voir périr. Dieu les a pas fait sortir de l'enfer d'Égypte pour les faire périr. Dieu ne nous a pas envoyé Jésus pour qu'il nous juge, mais pour qu'il nous sauve, qu'il nous donne une vie de bonheur. La Bible dit « Je suis descendu pour délivrer mon peuple et le faire monter dans un bon pays ». C'est pour de bonnes choses que Dieu nous aime et nous appelle. Ils prennent le désert de Chour. Ils s'enfoncent dans le désert. Des cailloux, encore des cailloux, et le soleil, et les enfants qui commencent à pleurer parce que l'eau vint à manquer. Au bout de 3 jours, les réserves d'eau sont épuisées. Tragique, hein? Au bout de 3 jours. Et quand les réserves sont épuisées, la foi s'épuise aussi. Quand ça va mal, on commence à douter de Dieu. On commence à remettre tout en question. Tout ce qu'il a fait avant, tout ce qu'il promet, tout ce qu'il est, on remet en question Dieu, souvent, dans notre existence. Mais en fait, dans ce chemin de désert, ils dépendent totalement de Dieu. Ils ne peuvent plus avancer, c'est le pays de la soif. Ils ne peuvent plus reculer parce que c'est l'Égypte qui les attend pour les faire mourir. Ils dépendent totalement de Dieu. Nous avons des situations comme ça. On ne peut plus avancer, on ne peut plus reculer, on ne peut faire rien. On a l'impression que des épines sont partout autour de nous et nous empêchent d'avancer. Nous connaissons ces situations et on se dit, mais à quel autre irai-je qu'à toi, Seigneur? Je n'ai plus de solution. Dans cette histoire, nous avons appris que Dieu les a mis à l'épreuve. Dieu ne va pas les faire souffrir, mais il va simplement leur apprendre que Dieu, dans les temps les plus difficiles, est fidèle avec nous aussi. Dieu tient ses promesses. Dieu ne démissionne pas. Dieu n'est pas notre ennemi. À Mara, Dieu veut leur dire « Je ne joue pas avec vos nerfs. Je ne joue pas cache-cache avec vous. Je vous aime. » Dieu va leur apprendre la relation de confiance. Ils ont tellement été battus que quand il arrive quelque chose, ils ont l'impression que on est contre eux, comme un enfant battu qui parfois lève le bras pour se protéger la figure, comme un animal battu qui rase la terre pour se cacher. Et Dieu veut leur apprendre la relation d'amour, de confiance. Dieu est un père. Et il va leur apprendre des lois, des paroles. Parce que la confiance vient d'une parole, d'une promesse, parole d'amour, une parole qui dirige, une parole qui pardonne, une parole qui éclaire le chemin. Tu n'es pas seul, ton Dieu prend soin de toi dans tout ce que tu vis. Dieu leur apprend la foi. Dieu leur apprend à voir l'invisible. Dieu est là. Ont-ils vu Dieu dans cet environnement hostile de sable, de pierre, de désert, où il y avait des scorpions, des serpents? Ont-ils vu Dieu qui pourtant était avec eux au milieu de la mer Rouge? La souffrance parfois nous aveugle sur Dieu. Les déceptions nous aveuglent sur Dieu. On ne voit plus Dieu, on voit notre vie qui souffre. Et Dieu est là. Qu'ont-ils vu? Un étang. Un étang en plein désert. C'est un miracle. Alors cet étang représentait pour eux peut-être la nature dans tout ce qu'elle a de maternelle, protection. Peut-être que par rapport à un Dieu qu'ils voyaient très fort, très exigeant, Il se dit, au moins là, la nature, elle est plus proche de nous. Mais c'est Dieu le créateur de toutes choses. Et c'est Dieu qui va les conduire un peu plus loin dans leur raisonnement. Ils se sont mis par terre, certainement, les enfants, les jeunes, ils ont bu, les animaux peut-être aussi. Et tout à coup, il y a eu un sursaut dans toute l'assemblée. L'eau était amère, saumâtre, non potable, dangereuse, empoisonnée. C'est un breuvage peut-être mortel, je ne sais pas. Peut-être mortel. Et là, ils sont déçus. Et cette amertume de l'eau est même rentrée dans leur cœur. Ils sont devenus amers. Ils ont murmuré contre Moïse. Il faut toujours un responsable. Ce sera Moïse. Lui qui les avait libérés d'Égypte. Comme parfois on accuse Dieu qui nous a donné la vie éternelle. Dans les jours faciles, on peut oublier Dieu. Et dans les jours difficiles, on peut aussi oublier Dieu. Tout est raison pour murmurer contre Dieu, contre la vie. Mais vous savez que cette histoire est une épreuve, une leçon, un apprentissage pour voir si Israël comprendrait que Dieu les aime et que Dieu a des ressources, que Dieu n'est pas à bout de ressources. Nous, on ne pense pas aux choses, mais lui pense à tout. Nous, on est limité, pas lui. Il a des ressources pour nous, dans sa perfection de pensée. Dieu n'était pas loin d'eux. Il n'est pas loin de vous non plus. Et parfois, c'est vrai qu'on se demande que fait Dieu quand nous sommes pressés, oppressés par des contrariétés, des oppositions, des déceptions, des échecs. On se demande que fait Dieu, où est Dieu. L'apôtre Paul écrit dans sa magnifique épître aux Romains, aux Corinthiens, pardon, nous sommes abattus, mais non perdus. Nous sommes remplis de difficultés, mais non réduits à l'extrémité. Paul dit, nous sommes parfois bousculés, mais nous ne sommes jamais abandonnés. Dieu s'occupe de nous parce que c'est sa mission. Personne ne l'a missionné, c'est son amour qui l'a missionné. La vie est donc amère parfois. Nous vivons des choses difficiles et nous réalisons que la vie sur terre est amère. C'est amère quand il, je reprends Jérémie le prophète, quand il n'arrive rien d'heureux. Quand on est en but contre la violence et qu'il n'y a personne pour nous consoler. Quand les opprimés sont dans les larmes. On trouve que la vie est amère. La vie est amère aussi quand on commet une faute dont le souvenir nous poursuit jusque dans nos rêves. Et je pense à Pierre qui a renié publiquement Jésus et qui pleurait amèrement, amèrement. La vie est amère quand on part comme Naomi, en exil pour fuir une famine et que dans l'exil, c'est l'histoire de la Bible, on perd deux enfants. La vie est amère et quand Naomi est revenue dans son pays d'Israël après avoir perdu son mari et ses deux enfants, elle dira « Ne m'appelez plus Naomi la beauté, appelez-moi Mara l'amertume ». La vie est amère quand on voit nous s'échapper nos filles, nos fils, et que les choses ne se passent pas comme on l'a voulu quand on perd des enfants. La vie est amère quand les choses ne se passent pas comme nous voulons. Je pense à Rebecca. Je pense à Isaac. Ils ont eu un enfant, Ésaü, qui fréquentait des filles pas fréquentables. Et Rebecca disait que sa vie était amère à cause des fréquentations et des mariages, au pluriel, des mariages de son fils. La vie est amère quand nos enfants ne vont pas comme nous aurions voulu. Les enfants nous rendent, peuvent rendre la vie amère. La vie est amère quand notre travail tombe dans un sac percé, que rien ne tient, que plus la vie passe, plus on ouvre les mains, jusqu'au dernier moment où on ouvre les mains pour mourir. Rien ne tient. On a de l'amertume. Notre vie est amère quand on réalise, comme les enfants d'Israël, qui ont quitté l'Égypte avec toute la richesse de l'Égypte et qui ne sont pas capables, avec cette richesse, de se produire une goutte d'eau parce que l'heure ne peut pas donner de l'eau. L'or et l'argent ne peuvent pas donner un cœur guéri, ne peuvent pas guérir les cœurs brisés, réparer les vies cassées. L'or et l'argent ne peuvent pas nous approcher de Dieu et ne peuvent pas donner de l'eau. Alors la vie est amère. Alors ils ont crié contre Moïse. Ils ont crié contre lui comme pour lui faire des reproches. Qu'est-ce que tu nous as fait ? Pourquoi on en est là ? Et Moïse a crié à Dieu. Dieu n'est pas sourd, mais c'était urgent. Parce que si le peuple d'Israël commençait à se séparer de Dieu, où irait-il ? Alors Moïse a crié à Dieu. Seigneur, aie compassion d'eux, qu'est-ce qu'il faut faire ? Cette histoire, voyez-vous, elle aurait été lumineuse si toute la communauté des enfants d'Israël avait crié à Dieu en disant « Nous ne comprenons pas, nos enfants pleurent de soif, mais nos yeux sont sur toi, parce que jusqu'à ce jour, tu as été fidèle. » Là, l'histoire aurait été lumineuse, admirable, mais là, non. Ils ont crié, mais heureusement qu'il y avait Moïse, un intercesseur, un homme intermédiaire, un homme tampon, bouclier entre Dieu et les enfants d'Israël, comme nous avons Jésus, médiateur, intermédiaire, pont, intercesseur. Il prie pour nous, il réclame à son Père le bonheur de chacun de nous. Moïse cria. Et Dieu a indiqué à Moïse un bois, un morceau de bois. Comment ? Quelle folie ! Comment un morceau de bois peut rendre tout un étang potable ? Comment un morceau de bois peut-il changer un poison ? Peut-il changer une situation aussi dramatique ? Mais ce bois, il est désigné par Dieu. Dieu donc va montrer comment il fait, comment il va opérer pour enlever l'amertume, pas seulement l'amertume de l'eau, mais l'amertume des cœurs, la tristesse des cœurs, le chagrin, les regrets. Dieu montre un bois, un arbre. Dieu montre un bois, donc ce n'est pas Moïse qui choisit. Ce n'est pas nous qui choisissons notre moyen de salut. Ce n'est pas nous qui inventons comment aller au ciel. C'est Dieu qui ouvre le chemin. C'est Dieu qui décide, qui choisit et qui fait. C'est lui qui est sauveur. Le remède, c'est lui qui l'a choisi, préparé. Mais ce bois, pour moi, représente la miséricorde, la bonté de Dieu, contraire à la logique. Il fallait des antidotes, il fallait des traitements, il fallait comment rendre une eau empoisonnée buvable. C'est pas logique comme histoire. La bonté de Dieu, c'est contraire à la logique. Il aime ceux qui le méprisent. Il aime alors que nous l'avons négligé, oublié, malmené. C'est pas logique. Mais Dieu a une autre logique. Quand nous étions des pécheurs, séparés de lui, loin de lui, Dieu nous a prouvé son amour. Il a choisi un bois. Et comme ce bois représente bien la croix, ou plutôt le sacrifice d'amour de Jésus-Christ sur la croix romaine de Jérusalem. Ce bois qui va tout changer représente la mort de Jésus, la souffrance de Jésus qui nous donne la paix de Dieu, la paix avec Dieu, la douceur et la joie de la vie. Et Moïse a pris ce bois et il l'a jeté dans l'eau, dans l'étang. Nous avons jeté Jésus dans la mort. La Bible dit qu'il a été enlevé dans l'angoisse, le châtiment. Il disait « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». La Bible dit que sa fin a été comme un jour d'amertume. Nous avons jeté Jésus comme Moïse a jeté le bâton dans l'eau empoisonnée. Et voilà le miracle de l'amour du Christ dans le don d'amour de sa vie, de son corps, de son âme, de son esprit. Voilà le geste, le résultat. L'eau est devenue douce et notre vie a été changée et transformée. Un bois ne peut pas rendre l'eau douce, bien sûr. C'est le geste, c'est la volonté de Dieu et l'amour du Christ, ce que personne ne peut faire, a transformé l'amertume de la vie en douceur, le désordre de la vie en ordre. Il a transformé le désastre en lumière. Ils boivent. Je bois à sa source. Je bois les paroles de l'Évangile. Désormais, je ne suis plus condamné. Je suis enfant de Dieu. Ah, les enfants d'Israël apprennent à connaître ce Dieu unique, ce Dieu de tous les humains, ce Dieu qui n'est pas méchant, qui n'est pas dur avec l'humain, mais qui l'appelle à la vie. Ils découvrent là un Dieu qui a des remèdes, des réponses, des solutions. Vous ne connaissez pas le désert, hein. Vous ne savez même pas que dans ce désert, à quelques heures là, pas loin, il y avait 70 palmiers. Il y avait 20 sources d'eau. Il y avait une oasis. Parfois, nous sommes si près et on ne le voit pas. Il ne l'avait pas vu, il ne le savait pas. Il n'avait pas de carte routière, mais pas de carte Michelin. Il ne savait pas que si près d'eux, il y avait la réponse à leur soif. Et nous ne savons pas que si près de nous, nous avons l'amour de Dieu qui peut nous guérir, nous consoler, nous remettre sur pied. L'amour de Dieu qui nous accueille comme le Père attend l'enfant prodigue pour le serrer dans ses bras. On ne sait pas qu'il est si près. Il est si attentif et nous, on le croyait lointain. Si tu savais le don de Dieu, dit Jésus, à la Samaritaine qui allait chercher de l'eau chaque jour à midi pour ne pas être vue, si tu savais le don de Dieu, tu lui aurais demandé à boire toi-même et il t'aurait donné de l'eau de la vie, de l'eau vive. Si nous savions, mais vous savez aujourd'hui, Dieu vous appelle, Dieu vous accueille. Où sont les cœurs amers au milieu de nous? Où sont les vies cassées, déçues? Quels sont les cœurs chagrins? Où sont parmi nous des gens qui ont échafaudé tout un un montage pour eux, leurs enfants, leur profession, leurs études, leur avenir. Et rien s'est fait comme prévu. Alors on est amer, comme si la vie n'était que ça. Et la vie est beaucoup plus haute que tout ce que nous pouvons imaginer sur terre. La vie, elle se fait dans une relation, quelle que soit notre fortune, notre intelligence, ou plutôt notre instruction, parce que trouver Dieu, c'est une intelligence du cœur. La vie, c'est la relation avec Dieu et avec les autres. Là, on vit. On peut mourir dans un monde d'or et d'argent et vivre dans le désert avec Dieu. Je vais vous inviter, mes amis, à faire confiance à Dieu, à crier à lui, non pas contre lui, mais à lui, en disant « Seigneur, je ne sais plus quoi faire, sauve-moi, j'ai besoin de toi. » Nous allons incliner notre tête devant lui. C'est vrai que peut-être que vous avez mangé du miel et que vos entrailles, dira le prophète, ont été remplies d'amertume. Vous avez été trompés. Quand on n'a pas l'Écriture sainte, l'Évangile, on se trompe sur plein de choses. On confond le jour, la nuit, le bien, le mal. On confond tout parce qu'on n'est pas, nous, capables d'appeler bien ce qui est bien et mal ce qui est mal. Mais voici Jésus, doux et humble de cœur, qui change les ténèbres en lumière et qui change l'oppression en joie, l'amertume en douceur. On incline nos têtes et on le laisse agir. On le laisse maintenant nous visiter, nous toucher. Pour nous et pour tous ceux que nous aimons et nos enfants, on représente une famille, tous. On a tous derrière nous des gens. On prie le Seigneur ensemble. Rappelez-vous le bois. Rappelez-vous comment tout cela a tout changé. Rappelez-vous Jésus-Christ. Je prie pour vous. Seigneur, tu es venu pour changer nos cœurs. Changer nos cœurs. Et ce changement, nous en avons besoin. Parce que notre cœur est trop souvent rempli d'amertume, de déception, de souffrance, de deuil, de chagrin, mais aussi de péchés qui troublent le cours de la vie. Alors nous t'attendons aujourd'hui, comme les enfants d'Israël hier t'ont attendu auprès de l'étang de Mara. Seigneur, touche-nous, change-nous, sauve-nous, guéris-nous, pardonne-nous, reste avec nous. Le soir décline, notre vie décline, nos forces déclinent, mais toi, reste avec nous. Amen. Merci Seigneur.